Notre poubelle est un iceberg. Nous voyons bien ce que nous jetons, un emballage, un vieil appareil ou un reste de repas. Mais toute l'énergie qu'il a fallu consommer pour produire et acheminer ces biens, tous les déchets que cela a générés, toute la matière et l'eau utilisées, toutes les pollutions induites, tous les gaz à effet de serre rejetés, nous ne les voyons pas. Et comme pour les icebergs, la face cachée de la poubelle est bien plus grande que ce que nous y voyons. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est Zoom Écologie, une émission hebdomadaire, présentée les troisièmes jeudis par Sophie Roux, Laurent Suc et moi-même. Et comme vous l'avez deviné, nous allons parler des déchets, car c'est un problème central de la vie en Ile-de-France, complexe et sûrement d'avenir. Et nous recevons pour éclairer ce sujet le directeur de l'ORDIF, donc l'Observatoire Régional des Déchets d'Ile-de-France, Elder de Oliveira. Restez avec nous, il n'aura rien à jeter dans cette émission. Zoom Écologie, c'est parti.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30. Sur Fréquence Paris Pluriel. 106.3.
Voilà, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Elder,
bonjour
Laurence. Bonjour Sophie.
Bonjour
et
Alexandre.
Bonjour Darton, puisque nous accueillerons tout à l'heure notre invité musical Darton. On commence, comme c'est la tradition maintenant depuis le mois dernier, par la chronique. Alors on ne sait pas si c'est un coup de gueule ou on n'a pas encore défini, mais la chronique de Laurence qui a fait tant parler de tout Paris depuis le mois dernier et qui va nous parler aujourd'hui de la mode et des modes de consommation. Laurence,
oui,
on t'écoute.
Merci Alexandre, je vais parler chiffons, je ne vais pas parler des chiffons des biffins, les chiffonniers que nous avions rencontrés, dont nous avons parlé la dernière fois. Non, les chiffons qui servent à nous vêtir, à vrai dire, l'envers social et environnemental de nos vêtements n'est pas toujours beau à voir. La transformation textile, notamment les teintures, utilise de nombreux produits chimiques extrêmement polluants comme le chlore, le formaldéhyde, mais aussi des métaux lourds. On dit ainsi que les rivières en Chine changent de couleur au gré de la mode en Occident. Satisfaire nos appétits postmodernes de surconsommation, ça coûte cher en termes de santé aussi. Un exemple, la mode est au jean neuf à l'aspect usé. Pour obtenir cet aspect délavé, le tissu est blanchi par sablage. Cette technique, utilisée manuellement, projette des particules sur les jeans, mais aussi dans les poumons des ouvriers, ce qui provoque des cas de silicose. Une cinquantaine de salariés en sont morts en Turquie. Et des ONG, notamment le collectif de l'éthique sur l'étiquette, se sont mobilisés et ont convaincu deux grandes marques de jeans d'abandonner cette technique, qui continue néanmoins d'être utilisée par des fabricants peu scrupuleux. Acheter neuf un jean délavé et déchiré alors qu'il va prendre cet aspect entre guillemets naturellement au fil du temps et des lavages, ma grand-mère nous interrogerait, est-ce bien raisonnable ? De fait, les impératifs du paraître l'emportent souvent sur le bon sens et la durabilité. La production des fibres textiles est aussi dommageable pour l'environnement, qu'il s'agisse des fibres synthétiques fabriquées avec des dérivés du pétrole ou du coton très gourmand en eau et en pesticides. Par exemple, la production d'un kilo de ces fleurs duveteuses de coton demande près de 20 000 litres d'eau. Ce coton constitue un bon exemple aussi des déséquilibres de l'agriculture mondiale. Fortement subventionné, le coton américain a déstabilisé les cours et ruiné les petits producteurs d'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps-là, des apprentis sorciers ont mis sur le marché un coton OGM. Mauvais choix. Une étude menée en Chine a montré que cette culture a favorisé la prolifération de punaises qui ont infesté non seulement les 3 millions d'hectares de coton, mais aussi 26 millions d'hectares de culture aux alentours. Ça fait froid dans le dos, malgré sa petite laine vierge des Pyrénées. Cela dit, il y a d'autres soucis. Avant d'arriver dans les rayons des hypermarchés, sous forme de t-shirts ou de chaussettes, les fibres seront transportées vers les ateliers de tissage, de teinture et de confection. Et puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'étiquetage systématique du bilan carbone des produits, le coût environnemental du transport n'est pas comptabilisé en bout de chaîne. Sur le plan social, la facture est lourde aussi. Pour satisfaire la course au prix toujours plus bas, on a commencé par délocaliser l'industrie textile. Aujourd'hui, pour attirer les donneurs d'ordre occidentaux, les États d'Asie du Sud-Est organisent un dumping social infernal sur le dos des salariés. Résultat, depuis 20 ans, les prix du prêt-à-porter en France n'ont quasiment pas augmenté. Merci les délocalisations, les hypermarchés qui cassent les prix. Et tant pis pour les salariés, comme cet été au Bangladesh ou au Cambodge, des grèves qui de la part des Bangladeshis, des ouvriers bangladeshis du secteur textile. Ils demandaient 70 dollars par mois de salaire, soit le prix d'un jean sablé ou pas. Le salaire minimum fixé par le gouvernement est de 25 dollars mensuels. Au Cambodge, les syndicats demandaient 68 dollars par mois. Le gouvernement a proposé 42 dollars. Aujourd'hui, plus de 300 salariés au Cambodge ne sont toujours pas réintégrés dans leurs usines. Et Peuple Solidaire, vous pouvez retrouver la pétition sur peuplesolidaire.org, demande de signer un texte pour les soutenir. Ces usines alimentent notamment H&M, Zara, Gap. Donc, on se retrouve avec une main-d'œuvre sous-payée par rapport au coût de la vie locale, ce qui est quand même un paradoxe pour une production de transformation destinée à l'exportation et qui génère de la plus-value. Et qui, très majoritairement, travaille dans les usines de confection surchauffées, les femmes, les premières exposées aux nombreuses violations des droits du travail. Donc, tant sur le plan environnemental que social, la mode et nos modes de consommation coûtent donc très cher. Alors avant d'acheter un nouveau jean, mieux vaut y penser. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter tout ça? Comme dirait ma grand-mère, encore une fois, combien de jeans on peut mettre à la fois? Achetons moins, mais achetons mieux, et on peut se faire beau, se faire belle, sans trop abîmer la planète, ni exploiter ses habitants et ses habitantes. Fini le poncho en poil de yak, c'est fashion d'être écolo. On trouve même des bottes aux talons en caoutchouc recyclés, chic et solides. Oui, plutôt qu'acheter beaucoup, essayons d'acheter durable, du coton bio, c'est doux à la planète et plus doux sur la peau, des chemises en chanvre, en lin et des vêtements fabriqués par des ateliers qui respectent les normes internationales du travail. Sur le site commerceéquitable.org, on trouve plein d'adresses de boutiques qui proposent des vêtements produits de manière plus respectueuse pour la planète et ses habitants. Autre façon écolo de se faire plaisir, elle est chinée du côté de la jeune création qui redonne une deuxième vie aux vêtements, aux sacs, aux tissus, aux matières, et ce qui permet de faire le plein d'accessoires de mode 100% récupération. Sans oublier les vides d'armoire entre copines, les vides greniers, les puces, du beau et original à pas cher. Après tout, le réemploi, ça marche aussi pour la mode, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre invité d'aujourd'hui qui va dire le contraire, enfin j'espère.
C'est sûr. Ah ben Laurence, merci, une transition impeccable pour aborder notre sujet du jour, parce que on va parler des déchets. Alors, les déchets, c'est un vaste sujet. Je dois dire que je me suis inspiré pour préparer cette émission d'un ouvrage que Elder, tu nous as transmis la semaine dernière, qui est 10 questions. Alors d'habitude, on présente les ouvrages à la fin, mais comme on ne fait rien de normal dans cette émission, là, je présente l'ouvrage au début. Donc, c'est 10 questions sur les déchets en Île-de-France, un ouvrage qui a été édité par l'ORDI, justement, donc l'Observatoire Régional des Déchets, aux éditions Technip, et dont je me suis inspiré pour mon intro tout à l'heure, donc je tenais à le préciser. Je tiens juste avant de commencer aussi à préciser à nos auditeurs que cette émission a été enregistrée mardi de la semaine dernière. Voilà, qu'il y aurait eu dans l'actualité quelque chose dont on ne parle pas, vous ne serez pas surpris. Voilà, donc les déchets. Alors j'ai lu en parcourant cet ouvrage, j'ai lu que c'était une question très complexe. J'ai eu l'impression qu'on avait aussi des moyens. Mais en fait, je vais un petit peu trop vite parce que Sophie et Laurence voulaient qu'on commence par parler un peu, qu'on fasse un peu l'historique des déchets. Alors est-ce qu'on peut commencer par... se poser la question depuis quand on s'intéresse aux déchets en France?
On s'intéresse aux déchets depuis que les villes existent, puisque les déchets, c'est une problématique urbaine où on concentre les résidus des activités, et puisqu'on concentre les habitants. Et d'accord. À partir de là, ça peut poser une question parce que cette concentration, elle génère des nuisances. Mais pendant très longtemps, pendant des siècles, il y avait une sorte d'écosystème dans les villes, en particulier dans la plus grande ville de France qui est Paris, qui faisait que un certain nombre d'acteurs récupéraient les déchets que les habitants jetaient dans la rue, les triaient, et donc on appelle ça les chiffonniers, ouais. Et enlevaient tout ce qui était valorisable. Et ce qui restait, c'était des déchets essentiellement organiques, qui étaient récupérés par les services de voirie qui ont évolué au fil des d'accord. siècles, et qui étaient récupérés au final par les agriculteurs autour de Paris qui nourrissaient Paris. Donc les déchets de Paris servaient à nourrir Paris à travers une sorte de petit écosystème des déchets organiques.
Donc on était finalement mieux organisé il y a 300 ans.
Organisé, c'est pas le mot, parce que c'était très informel. Tout ça était d'accord. très informel. Et Mais c'est vrai qu'il y avait une sorte de combat entre cette logique-là, qui était une logique économique, locale, d'écosystème humain ou urbain, et d'un autre côté, la problématique des embarras de Paris. Dans toute la littérature depuis le Moyen-Âge, on parle des embarras de Paris, c'est que ces déchets, c'est aussi des obstacles à la bonne gestion de l'espace public. Et puis, avec l'avènement de l'hygiénisme au XIXe siècle, c'est devenu un problème aussi d'hygiène. D'accord. Et donc, pendant tous ces siècles, il y a eu un combat entre les services dits de police au sens large, qui voulaient évacuer tout ça, qui voulaient aussi se débarrasser de tous ces gens qui traînaient et qui ramassaient des choses et qui créaient une économie peu maîtrisable, peu facilement... qui était souvent lié à d'autres activités.
Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les biffins. C'est
drôle, qu'on appelait déjà à l'époque les biffins. Voilà, qu'on appelait déjà.
La dernière émission était sur les biffins.
Voilà. Et donc, d'un côté, l'administration qui de la circulation et de l'hygiène qui veut se débarrasser d'eux, et puis de l'autre côté, une économie, une vie informelle, un monde informel qui existe et qui a tenu pendant des siècles jusqu'au jour.
Où, d'accord. Je vois pourquoi ils voulaient se débarrasser d'eux finalement. C'était quoi,
ça sentait mauvais.
Pendant la Renaissance, on avait d'un côté les lumières, d'un côté les toute une vision française d'un certain art de vivre, une certaine qualité patrimoniale, artistique. Et à côté de ça, on avait des rues qui étaient des bourbiers. Qui étaient des bourbiers parce que effectivement les gens jetaient des choses qui étaient plus ou moins triées, ce qui restait c'était de la boue, d'où le mot éboueur, hein, puisqu'on ramassait, et ces boues étaient utilisées en agriculture. Mais quand je dis que ça vient de la ville, c'est vraiment très très précisément le départ de l'urbanisme, puisque c'est pour nettoyer la ville que on a commencé à la paver, hein, au XIe siècle. Donc, c'est pour pouvoir bien nettoyer qu'on a dit on pave la ville, comme ça les déchets seront séparés du sol, et donc ce qui aura été trié est enlevé, et ce qui reste, ce sera les boues qu'on pourra enlever en allant jusqu'au sol, c'est-à-dire jusqu'au pavage. Et donc, quelque part, la rue a été créée par les déchets.
D'accord. Une autre question sur...
Est-ce qu'il y avait j'imagine que du coup, il y avait plein d'animaux dans les rues de Paris jusqu'à...
Voilà, j'ai été un peu rapide sur l'écosystème. Les gens jettent donc tous leurs déchets, essentiellement organiques. Les chiffonniers récupèrent ce qu'ils peuvent. Ce qui reste est digéré par des animaux de compagnie, en particulier des cochons, mais aussi d'autres animaux. Et donc, ce qui reste, c'est vraiment des déchets organiques, quelque part prédigérés par les animaux, et donc très utilisables en agriculture. Mais quand on lit les pages de Balzac ou de Zola, on a toutes sortes de pages où les maraîchers qui arrivent à Paris, qui vont au Halles à emporter leur salade, ils repartent avec... Les crottins des chevaux, mais aussi tous les déchets, toutes les boues qu'ils peuvent récupérer pour ensuite fertiliser leur champ.
Et à l'époque, il y avait une ceinture verte autour de Paris, une ceinture maraîchère qui permettait de nourrir la ville.
Voilà, et qui a duré quasiment jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, même un petit peu après. Hein. C'est vraiment très récent. On connaît encore des grands-parents, des grands-mères de banlieue qui racontent qu'ils allaient chercher leur salade... à Aubervilliers ou à Pantin. C'est quand même très récent, cette urbanisation-là.
Alors après, comment on en arrive à un système organisé de gestion des déchets ?
Eh bien, un jour, à la fin du 19e siècle, la police parisienne, la police administrative parisienne, la municipalité parisienne a gagné, parce qu'elle a eu une idée géniale qu'elle a importée d'abord d'Angleterre et ensuite de Lyon, qui est que pour rendre les choses efficaces, on n'allait plus embêter les habitants, mais les propriétaires. Et donc, on allait obliger les propriétaires à avoir une boîte qu'ils garderaient 24 heures dans leur immeuble et qu'ils ne sortiraient que pour le passage des éboueurs. Et donc, c'est le préfet Poubelle, en 1884, qui impose ce procédé. Et donc, du coup, petit à petit, en mélangeant tout dans une boîte,
Poubelle... Il y avait une boîte de tuer les biffins aussi...
Il y avait peut-être une volonté, c'était pas évident au départ. Oui, ça a été un outil pour tuer les biffins, parce qu'effectivement, une fois que c'est mélangé, les biffins ne pouvaient plus ne pouvait plus trier ces déchets-là.
On est vraiment alors, dans la police administrative. On est tout à fait. Sécurité publique.
Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier arrêté, il ne date pas de 1884, il date de la fin de l'année 1883. Et il a été très contesté. Il a été contesté à droite, parce que la droite de l'époque considérait que c'était une atteinte à la propriété, puisqu'on allait obliger les propriétaires à avoir une poubelle, enfin, ce qui paraît complètement aberrant aujourd'hui. Il a été contesté par le mouvement hygiéniste, parce que garder une poubelle avec tout ce qu'on peut imaginer, les miasmes, dans les immeubles pendant 24 heures, c'était inimaginable, alors que dehors, on considérait que ça ne se posait pas de problème. Et il a été contesté par la gauche, avec un certain à-propos, et en tout cas un sens de l'histoire, qui disait que ça allait tuer les biffins. Et donc, il y a eu beaucoup de débats, hein. Il y a eu 3 mois de polémiques, de débats dans la presse, etc. Et au début de 1884, il y a eu un deuxième arrêté, celui qui est quelque part toujours en vigueur aujourd'hui, même si ça a un peu évolué, qui essayait de redonner des gages aux biffins en les permettant de vider les poubelles sur une nappe, une toile plutôt exactement, pour pouvoir les trier et ensuite, avec l'obligation de remettre dans la poubelle, ce qui aujourd'hui fait penser à beaucoup de choses quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les bacs. Et en rajoutant un délai, effectivement, en disant qu'il fallait sortir le bac une heure avant le passage de la benne, ce qui est toujours en vigueur aujourd'hui, et le rentrer un quart d'heure après, ce qui est toujours en vigueur aujourd'hui, malgré l'évolution un siècle après, c'est toujours les règles qui ont été posées à l'époque. Et troisième élément, pour répondre aux hygiénistes, on a mis un couvercle qui n'existait pas dans le premier arrêté.
D'accord. Donc le système d'aujourd'hui date de 1884.
Voilà. Et c'est pas seulement cette boîte qui date de. C'est toute la logique qu'il y a derrière. C'est qu'à partir du moment où on avait une boîte qui mélangeait tout, eh bien, il fallait avoir un dispositif de collecte qui de plus en plus efficace. Donc au départ, c'était des charrettes. Ensuite, ça a été des bennes motorisées. Ensuite, pour être plus efficace, pour transporter plus de choses, on a pris des bennes qui compacter les déchets, et donc ce qu'on pouvait encore sauver a été de plus en plus mélangé, de plus en plus imbriqué, donc de moins en moins séparable. À partir de là, les agriculteurs, ils n'avaient plus des déchets organiques purs, ils avaient des déchets mélangés avec du verre, avec toutes sortes de produits, et petit à petit, ils n'en ont plus voulu. Donc il a fallu trouver une solution. Et progressivement, la solution qu'on a trouvée au cœur de la ville, comme à Paris comme ailleurs, a été de les incinérer. D'abord, les incinérer, je dirais, accessoirement, puisque l'idée, c'était d'avoir des machines à vapeur qui écrasaient l'ensemble des déchets pour les rendre plus acceptables par les agriculteurs. Mais même comme ça, ils étaient de moins en moins acceptables. Et puis, il y avait la concurrence des engrais chimiques qui se développait aussi petit à petit. Et du coup, on voyait que les machines à vapeur pour écrabouiller ces déchets était efficace. Donc on les a de plus en plus brûlés. D'accord. Avec les cendres, on faisait des briques. Et puis on s'est dit, ça fait quand même de l'énergie, tout ça. Donc on a fait de l'énergie électrique.
Non, on est dans le 20e siècle déjà.
On est dans les années 20, années 30, puisque c'est vraiment au tournant du siècle que tout ça s'est mis en place. On a utilisé cette énergie et petit à petit, on s'est dit la meilleure façon d'utiliser cette énergie, parce que les ingénieurs de la ville de Paris étaient des gens très rationnels et très efficaces, c'est d'utiliser cette chaleur pour alimenter un réseau de chauffage urbain qui a été créé en 1927 et qui existe toujours aujourd'hui, qui alimente 400 000 foyers. Et donc, on a optimisé, aujourd'hui, on a optimisé au maximum l'utilisation de ces déchets dans cette logique, une poubelle, une collecte, un exutoire, et on optimise au maximum l'exutoire. Donc, le XXe siècle, le Parisien est complètement lié à cette logique avec une poubelle, une solution.
D'accord.
Et ce qui s'est passé après, à partir des années 1970, c'est qu'on s'est d'abord, les déchets ont explosé. On a doublé la production de déchets par habitant entre la Deuxième Guerre mondiale et la fin du siècle, en 50 ans. Mm-hmm. Et toute une série de réglementations environnementales qui sont apparues. Et cette logique de une poubelle, une solution n'était plus possible. Donc progressivement, on a essayé de trouver des dispositifs qui recréent cette séparation qu'on avait forcée un siècle avant. D'accord. Et depuis, depuis l'année, seulement les années 2000, on sépare à nouveau les déchets à Paris entre au moins les recyclables et les non recyclables. Et on a encore beaucoup de travail à faire pour les organiques, parce qu'ils sont toujours mélangés avec les résiduels. Et de façon un peu... doucement, on commence à réfléchir à collecter les organiques des grands producteurs, les restaurants, etc., etc. De inciter les habitants à composter leurs déchets, enfin petit à petit à reséparer ce qu'on a mélangé un siècle avant.
D'accord, on va parler de tout ça, effectivement.
Pourquoi ça a doublé la production de déchets? C'est seulement lié aux emballages ou...
C'est pas seulement les emballages, c'est les journaux, c'est regarder le monde juste à l'après-guerre, c'était une page recto verso, aujourd'hui ça en fait 50, donc c'est la consommation globalement qui a beaucoup évolué, et y compris les emballages qui n'existaient pas ou quasiment pas. Il y a 50 ans.
D'accord. Là, justement, est-ce qu'on pourrait évoquer des chiffres de un Parisien ou une Parisienne, c'est combien de kilos de déchets par an, par exemple? Alors, aujourd'hui, en 2011.
Voilà, on a coutume de dire, mais c'est des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes. On a coutume de dire qu'en gros, un habitant, c'est 350-400 kilos par an et par habitant de déchets quotidiens.
C'est 1 kilo par jour, en fait, à peu près.
Voilà. Et que si on prend les déchets occasionnels, c'est-à-dire les meubles, éventuellement des déchets verts dans certains endroits, on monte à 550. Voilà. Donc, c'est la référence européenne entre 400 et 550 kilos par an par habitant. Mais il faut le prendre avec des pincettes parce que ce sont des déchets qui sont avant tout collectés par les collectivités, par celles qui ont la compétence pour gérer les déchets. Et ce n'est pas forcément les déchets qui ont été produits par les habitants. Alors, c'est un exemple qu'on donne tout le temps. C'est le 20e arrondissement par rapport au 2e arrondissement. Dans le 20e arrondissement, vous avez 350 kilos par an et par habitant. Si on prend tous les déchets qui sont produits sur le territoire et vous le ramenez au nombre d'habitants, ça fait 350 kilos. Si vous faites la même chose dans le 2e arrondissement, vous avez 1,5 tonne. Alors, ça ne veut pas dire que l'habitant du 2e, il produit beaucoup plus de déchets que l'habitant du 20e. C'est simplement qu'il y a beaucoup de déchets d'activité qui, ramené au nombre d'habitants, donne l'impression qu'ils produisent beaucoup plus.
C'est des déchets industriels, en fait, c'est ça de...
Ils ne sont pas industriels, parce que c'est des activités tertiaires, souvent. C'est le restaurant en bas de chez vous, c'est le cabinet d'avocat au premier étage, c'est éventuellement le médecin, mais, sauf que normalement, il ne doit pas utiliser les déchets municipaux, etc. Et puis, c'est les habitants, le reste, pour les autres étages.
D'accord. Alors, vous dirigez l'ORDIF, qui a été créé en 92, c'est ça?
Voilà.
Pourquoi on a créé l'ORDIF en 92? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait l'idée de créer un observatoire?
Alors, on l'a créé parce qu'en France, on a deux logiques. On a une logique de gestion et une logique de planification. La gestion, elle est faite par les communes qui collectent et qui traitent les déchets. En général, elles se regroupent pour ça, soit dans des communautés de communes pour collecter, soit dans des syndicats spécialisés pour traiter les déchets. Donc le syndicat qui est spécialisé pour ça en Ile-de-France, enfin en tout cas dans le cœur de l'agglomération, il s'appelle le SICTOM, il couvre Paris, le 93, le 92 et une partie du 94, et il mutualise les efforts avec les incinérateurs, avec les centres de tri, avec tous les dispositifs qui permettent de traiter ces déchets. Donc ça, c'est la gestion. D'accord. Et à côté de ça, on a la planification. Et la planification en France jusqu'en 2004, c'était une compétence des départements. C'est eux qui doivent dire dans les 10 ans à venir, voilà ce qu'il faut construire comme usine, voilà comment on doit organiser pour essayer d'appliquer au mieux un principe qui est issu des lois des années 1970, qui est le principe de proximité. On doit gérer les déchets à proximité de là où on les produit. Mais pour ça, en France, ça se traduit par une planification, on aime bien la planification en France, et une planification qui était départementale. Sauf qu'en Ile-de-France, la réalité, elle n'est pas du tout départementale. La réalité, elle est de cette grosse agglomération qui, à elle seule, est à cheval sur 4 départements, plus les départements autour qui sont un peu plus ruraux, mais qui ont aussi des grands centres urbains. D'où l'idée d'avoir une structure qui mette un peu tous ces gens en commun et permette de lisser ces logiques départementales avec une volonté supplémentaire qui était de l'État et de la région à l'époque, c'était de mettre tout le monde autour de la table. C'est-à-dire pas seulement les départements, pas seulement les collectivités qui collectent et qui traitent, mais aussi les opérateurs, parce qu'il y a une grande partie, la majorité des opérateurs sont des opérateurs privés aujourd'hui, sauf à Paris et dans quelques communes, les associations de protection de l'environnement, les chambres consulaires, certains gros producteurs comme Aéroport de Paris, etc. Donc l'idée, c'est de mettre tout le monde ensemble pour pouvoir donner une sorte d'identité régionale à cette gestion des déchets. D'accord. Et ça a changé en 2004, puisque en 2004, la compétence est devenue régionale par exception au reste de la France.
Ouais, je voulais juste faire une incise, parce que Elder nous disait que par principe, les déchets étaient traités à proximité en France, et je me disais que vraiment ça marchait pas pour le nucléaire, hein, puisque il y a un train de déchets nucléaires là qui vient de passer, donc c'était le 7 et 8 février, qui vient de traverser l'Italie, de passer par les voies du RERC, ce qui est quand même complètement fou, je trouve, pour aller jusqu'à La Hague, et qui va soi-disant être traité et ensuite va repartir en Italie ces déchets ne sont pas envoyés en Russie de manière plus ou moins clandestine.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Alors, on va interrompre un petit peu ce débat et on va recevoir un invité musical comme chaque mois dans notre émission. Aujourd'hui, on reçoit Darton. Alors, Darton, c'est un ami et un musicien depuis très longtemps qui s'accompagne le plus souvent d'un groupe et forme avec eux Darton et leur Ex Machine, c'est ça ?
Alors, quand c'est le groupe, c'est seulement leur Ex Machine.
C'est seulement leur Ex Machine, voilà. D'accord. Qui est plutôt un projet rock folk avec des chansons en anglais.
Voilà, c'est un projet en anglais et c'est effectivement folk rock, ouais, comme tu dis.
D'accord.
Rock folk, ouais.
Mais aujourd'hui, tu as eu envie de nous chanter une chanson en français ?
Oui, là, si tu veux, j'ai...
Question d'humeur, quoi.
Deux casquettes, quoi. J'ai ma casquette Darton en solo, et c'est un projet français avec de la chanson française. Et de l'autre côté, j'ai mon groupe de rock anglo-saxon, Rex Machine. Voilà.
Ok. Great. Mm. Et tu vas nous chanter une chanson qui s'appelle Par ici.
C'est ça, exactement.
Voilà. Par ici. Bah, écoute, voilà. On t'écoute et puis on rediscute juste après.
Ça marche. Avec toi, au fond de mon cœur, il n'y a pas de froid, de peur. Il y a une voix qui me dit par ici ou par là, par ici. Tu me recommandes jour après jour un chemin, jamais tu ne m'empêches de lâcher ta main. Tu me dis par ici ou par là, par ici, par ici. Tout est en vie, tout est clair. Par ici, par ici. Tout est en vie, tout est clair. Par ici. Et puis quelquefois je suis tenté d'aller par là. Toi tu me laisses libre, tu ne m'en empêches pas. Tu ne me condamnes pas. Tu prends soin de dans la vallée de l'ombre de la mort, à Paris ou Texas, beaucoup un jour connaissent ce sort. Tu disposes ces bandits devant moi, tu exposes mes ennemis que le monde voit pas. Par ici. Grâce à toi, j'y reviens, même de loin, par ici s'est ouvert, même hier, même demain, par ici. Par ici, tout est en vie, tout est clair. Par ici, tout est en vie, tout est clair, tout est clair. Par ici, je ne veux plus marcher sans toi. Je ne veux plus marcher sans toi.
Merci, donc c'était Darton. Alors Darton, on peut te retrouver le 11 mars au Pavé d'Orsay, qui est une petite salle du 6e arrondissement, 7e arrondissement.
Écoute, c'est juste derrière le musée d'Orsay.
Comme son nom l'indique, le Pavé d'Orsay.
Voilà, c'est ça, c'est rue de Lille, c'est juste derrière. Je crois que le numéro, c'est 46.
D'accord, ok. Bon, de toute façon, on mettra les coordonnées de ton site, tu dois avoir un MySpace.
Alors il y a le Facebook, tu fais Rex Machine.
T'es quand même quelqu'un de moderne, quoi, en fait.
Écoute, si être sur MySpace, être moderne, oui. Maintenant, j'ai peur qu'à la vitesse où ça va, MySpace, c'est pas moderne du tout. Mais bon.
Bon, bah écoute, merci. C'était une belle chanson d'amour que vous avez jouée là.
Ouais, c'est une chanson d'amour, ouais.
Donc, t'étais dans une humeur à nous jouer une chanson d'amour aujourd'hui, c'est très agréable.
Bah, disons que c'est là où on peut se ressourcer le plus, on va dire.
D'accord. Ouais. Ok, bon, bah écoutez, écoute, merci. J'invite nos auditeurs à voir sur le site l'adresse et à se rendre sur ton MySpace et ton Facebook et à suivre ton actualité. Merci, je rappelle que c'est un exercice difficile pour nos invités parce qu'ils sont dans des conditions très précaires quand ils viennent jouer dans cette émission. En plus, cette semaine, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est dans un appartement, on n'est pas dans les studios, donc il n'y a aucun matériel de sonorisation. L'artiste, il vient avec sa guitare, il s'accorde comme il peut, il joue entre deux tables. Donc voilà, merci encore et à très bientôt.
Ouais, merci pour cet accueil chaleureux.
On va reprendre ce débat sur les déchets. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur le cycle d'un produit pour que ce soit bien clair pour les auditeurs. Le déchet à la fin, si on parle de la fin, on peut partir de la fin. Il est, si j'ai bien compris, soit recyclé, soit enfoui, soit incinéré.
Oui.
C'est ça, en gros, il y a trois destinations des déchets à la fin. C'est quoi la part de ces trois?
En fait, il y en a quatre, parce qu'il peut être réutilisé.
D'accord.
Et avant qu'il soit devenu un déchet, maintenant c'est une terminologie officielle, avant d'être abandonné, parce que c'est ça qui fait que c'est un déchet, s'il est abandonné, il peut être réemployé.
D'accord.
Donc, en disant ça, en fait, on reprend une hiérarchie qui a été posée par une directive européenne en novembre 2008. Qui dit que, d'abord, première chose, il faut faire de la prévention. Donc, il ne faut pas que le déchet devienne un déchet.
Il vaut mieux trier ses achats plutôt que trier ses déchets.
Exactement.
C'est une citation
dans ce livre. Le citoyen doit trier ses achats plutôt que ses déchets. Effectivement, c'est très résumé très bien.
Faire de la prévention, c'est d'abord aux achats. C'est éviter d'utiliser des choses jetables. Alors, l'exemple le plus caricatural, c'est la pile. D'abord, il faut se demander est-ce qu'on peut utiliser un appareil qui n'a pas besoin de pile. Ne serait-ce qu'un appareil qui se branche sur le secteur, c'est déjà une révolution. Et puis, s'il ne se branche pas sur le secteur, maintenant, il y a de plus en plus d'appareils qui peuvent se recharger avec des manivelles, avec des capteurs solaires, etc.
Il y a un calcul à ce sujet dans le livre qui dit que l'utilisation d'une pile est 50 fois plus coûteuse en énergie. Si on compte tous les déchets que j'ai cités tout à l'heure, d'eau grise, enfin c'est peut-être un terme un peu...
L'énergie grise.
L'énergie grise qui ont été utilisées pour produire cette pile. Voilà. Donc le taux est de 50.
C'est la partie immergée de l'iceberg dont vous parliez tout à l'heure.
Dont je parlais dans le début de l'émission.
Donc d'abord, éviter un appareil avec une pile, enfin éviter les piles. Et on ne peut pas toujours éviter les piles. Donc Deuxième niveau, utiliser des piles rechargeables. Voilà. Et troisième niveau, si on a vraiment des piles jetables, ce qui ne devrait pas arriver, eh bien, le mieux, c'est de les trier, de ne pas les mettre dans la poubelle résiduelle, de les mettre, dans le circuit qui permet de les récupérer et de les dépolluer. D'accord. Donc, toute la logique des déchets, c'est une logique comme celle-là, de subsidiarité. C'est-à-dire, on essaie d'abord d'être le plus vertueux, et puis ensuite, on essaye l'hypothèse d'après, et puis chaîne. Ensuite, après, c'est une chaîne, comme ça, c'est une chaîne de décision, on va de la meilleure à la pire. Ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser parce qu'on a une pile jetable, au moins, il faut la trier, mais si on peut éviter, si on peut faire du rechargeable, ou si on peut éviter la pile tout court, c'est toujours mieux.
Voilà. C'est pour ça aussi que c'est bien d'acheter des choses en vrac, d'acheter des produits avec le moins d'emballage possible aussi, j'imagine.
Exactement. Si on peut éviter l'emballage, par exemple, il y a une marque de lessive qui est en train d'expérimenter, non pas des lessives dans des emballages, recyclables ou pas, c'est pas la question, simplement, elle vend ses lessives dans des fontaines. Donc c'est vous qui amenez l'emballage. Et du coup, vous le réutilisez.
Alors là, je vais mettre les pieds dans le plat, mais je trouve qu'on a l'impression qu'on a un retard, et notamment un manque de bonne volonté de la part des industriels, quand même, au niveau de la prévention. Si je veux citer quelques exemples, c'est vrai qu'on a, par exemple, un marketing qui n'est pas très incitatif pour acheter des produits sans emballage, globalement. On est quand même toujours un peu dans une logique d'emballage, quand on est dans un supermarché. Il y a quand même, on le voit dans le livre, c'est intéressant, un frein à tout ce système de consignes qui marche quand même encore dans certains pays, notamment pour le vin, parce que le vin est acheminé, paraît-il, dans certains pays dans les tonneaux, alors qu'ici on veut la bouteille, et transporter une bouteille, ben, c'est lourd et coûteux. Il y a quand même un frein sur tout ce qui est produits high-tech, en nous vendant des produits qui sont en général pas réparables, voire des produits dont la fin de vie est programmée, donc ça doit vous faire hurler, j'imagine. Et puis j'avais un dernier exemple, c'est l'affichage du recyclable par recyclable n'est quand même pas super clair. J'ai plein de gens qui, parce qu'ils voient le logo éco-emballage, on en parlera peut-être juste après, pensent que le produit est recyclable, donc le mettre dans la poubelle recyclée. Et on verra que ce n'est pas tout à fait le cas. J'ai l'impression que de la part des industriels, il n'y a pas une énorme volonté pour favoriser cette prévention et aider le citoyen à consommer moins.
C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Si on reprend vos trois exemples, sur les emballages jetables ou la consigne, vous dites elle existe encore dans certains pays. Non seulement elle existe encore, mais elle est réactivée dans certains pays. J'étais l'été dernier à Berlin. Vous achetez pas une seule boisson qui n'est pas dans un emballage consigné, chose qui n'existe plus chez nous. Et c'est récent. C'est une loi qui a 2-3 ans qui a réinstallé les dispositifs de recyclage. Mais le recyclage ne fonctionne bien, et c'est l'exemple que vous donnez pour le vin, que s'il y a un circuit court pour les emballages. Faire transporter des milliers de kilomètres des bouteilles vides, ça n'a aucun sens. D'où l'idée pour la chaîne de supermarchés ou d'hypermarchés Delhaize en Belgique que vous évoquiez, d'importer le vin français en cuve, puisque vous savez que le vin qu'on achète dans nos supermarchés, il est mis en bouteille quelques heures ou quelques jours avant qu'on l'ait en supermarché, donc pourquoi pas le faire venir directement en cuve, le mettre en bouteille à côté de là où on va le vendre, du coup la bouteille elle fait un circuit court et tout le monde y gagne, vous avez moins de transport, moins de pollution, vous avez moins d'emballage jetable et vous avez toujours votre vin français pour les Belges.
C'est ça que tout le monde y gagne, on est à peu près tous convaincus autour de cette table, mais alors pourquoi ça avance pas plus vite là ?
Eh bien, c'est un grand mystère. Pourquoi les mêmes industriels ou les mêmes distributeurs utilisent des méthodes relativement vertueuses dans certains pays, comme la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, et pas en France ? Alors, c'est les mêmes enseignes. Alors, la différence, c'est probablement la réglementation qui n'est pas la même. Mais aujourd'hui, pour le recyclage, c'est la même chose. Pourquoi en Allemagne, en Belgique, même en Autriche, on recycle 60% des déchets, alors qu'en France, on est péniblement à 25-30%. C'est probablement que la réglementation n'est pas du tout la même. Et quand je dis recyclage, j'ouvre une parenthèse quand même, quand je dis recyclage, parce que vous disiez qu'il y avait trois grandes façons de gérer les déchets, la décharge, qu'on a appelé ensuite enfouissement et maintenant stockage, mais c'est toujours de la décharge, l'incinération avec ou production d'énergie ou pas, et le recyclage. Et dans le recyclage, j'avais deux branches qui sont très importantes au niveau européen en particulier. Vous avez la branche organique, c'est-à-dire faire du compost avec des déchets qui pourrissent, des déchets organiques, ou alors la branche matière, qui est de faire des nouvelles matières avec des anciennes matières, faire du nouveau papier avec du vieux papier, du nouveau plastique avec du vieux plastique, de l'acier avec des canettes, etc.
D'accord.
Voilà. Mais là aussi, on est très en retard en France, parce que la réglementation, probablement, n'est pas assez forte, n'est pas assez incitative, voire assez stricte, par rapport à ces pays du Nord.
Alors, on entend dire, et je suis ravi de vous avoir autour de cette table pour m'éclairer sur ce sujet, mais on entend dire de temps en temps, c'est facile, les industriels sont les mêmes qui produisent les emballages à une chaîne et puis qui participent à leur récupération à la fin en touchant l'argent du contribuable. Alors, comment est-ce que c'est vrai, ça ?
Alors, c'est pas les mêmes, mais c'est la même logique. On est dans une logique, effectivement, où vous avez une compétence qui est la compétence de la collectivité. Donc le maire, pour symbole de cette collectivité, il est responsable des déchets que les habitants produisent. C'est lui qui est chargé de les gérer. Simplement, pour les gérer, il a besoin de techniciens et il se tourne vers des spécialistes de la question qui sont des grands groupes très connus d'industriels qui ont d'abord commencé avec de l'eau, avec les questions d'eau et d'assainissement et qui maintenant s'occupent aussi de déchets, puis d'énergie, de transport, etc. Le problème de ce maire, c'est qu'il ne maîtrise pas ce que les habitants jettent. Et les habitants ne maîtrisent pas énormément non plus. Celui qui maîtrise un peu ce que les habitants vont jeter, ce que le maire va gérer, dont il va être responsable financièrement, politiquement, économiquement, pénalement, s'il y a un problème de gestion des déchets derrière, ça arrive régulièrement, hein. Il y a encore un procès là, en ce moment sur ces questions-là qui défraye la chronique. Eh bien, celui qui maîtrise ça, c'est celui qui met sur le marché. Alors, ce n'est pas le même que celui qui gère, mais il y a une sorte d'alliance objective entre celui qui met sur le marché quelque chose qui va fatalement devenir un déchet et qui n'est peut-être pas recyclable et qui est jetable, qui a usage unique, comme on dit dans notre jargon, et celui qui dépollue quelque part à la fin et qui gère le déchet quand il arrive entre les mains de la collectivité. Donc vous avez au milieu les contraintes sont des contraintes publiques. Vous avez une sorte de publicisation des coûts. Oui. Les coûts sont publics, mais les bénéfices sont privés. Des deux côtés de la chaîne, pour celui qui traite, comme pour celui qui met sur le marché. Celui qui met sur le marché, il ne prend pas en compte la fin de vie, et celui qui gère la fin de vie, il est payé pour la gérer. Et celui qui paye, c'est le contribuable, et par intermédiaire de son maire.
Ah ben d'accord, donc c'est tout bancal comme système, en fait, non ?
Ouais, ça
dépend pour qui.
Ça permet de faire des profits à certains aussi.
Ah, c'est ça, oui, oui, non, mais d'accord, on est au cœur du sujet là.
Voilà. Et puis l'emballage aussi, peut-être de manière plus pratico-pratique, on s'aperçoit que c'est une surface à publicité en fait. Hein. C'est une surface où on va pouvoir faire exposer du marketing. Donc c'est certainement une des raisons aussi pour lesquelles il y a toujours beaucoup, beaucoup d'emballages qui coûtent très cher et qui ne sont pas supprimés parce que c'est plus, ça suscite un appétit de consommation.
Donc, finalement, ces industriels, ils sont pas tellement incités à réduire ces emballages et à produire des produits qui vont créer moins de déchets, etc.
Ben, ils ne sont pas incités puisqu'on peut mettre sur le marché des produits qui sont très emballés ou qui sont très polluants quand ils arrivent en fin de vie, sans quasiment aucune contrainte, ou qui ne sont pas recyclables, y compris en faisant miroiter une image écolo. Hein, l'exemple le plus caricatural, c'est les fameux yaourts avec des petits pots en terre. Il n'y a aucun système pour les récupérer derrière. Donc, ils sont plus lourds, donc ils consomment plus d'énergie pour les transporter, ils sont pas recyclables, et pourtant, ils ont l'air plus écolo. Enfin, c'est une absurdité absolue. D'autres exemples, c'est les fameux petites capsules en aluminium pour le café. Donc, là aussi, non seulement elles coûtent les yeux de la tête, mais en plus, elles sont pas recyclables. Donc, il y a eu des polémiques autour de ça, donc ils ont essayé de les recycler, mais enfin, recycler des petites capsules en aluminium c'est très lourd, très cher, très compliqué, donc ça ne fonctionne pas. En plus, il faut les collecter, enfin bref. Donc on a plein d'exemples comme ça, marketing, qui sont complètement à l'opposé de, d'une gestion correcte des déchets.
Parce que c'est un marché, j'avais les chiffres, mais c'est un marché qui est colossal quand même. C'est 11 milliards d'euros, le chiffre d'affaires des secteurs des déchets en France, pas en Ile-de-France, mais en France. Donc c'est un marché colossal. Moi, ça me fait penser, dans notre émission d'octobre, de cette même émission, on avait invité Jean-Luc Souli, qui est un conseiller régional et qui se bat pour la municipalisation de l'eau.
Donc, par c'est exemple, les mêmes opérateurs.
Voilà, si on se cale sur l'exemple de Paris, à Paris, on a remunicipalisé l'eau en 2009. Donc, à la suite de cette émission, bah, moi, j'étais plutôt content. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, est-ce que ces grands opérateurs, ils n'en ont pas récupéré de l'autre côté? Et notamment avec l'histoire des déchets, finalement. Est-ce que ce qu'ils ont donné, ils n'ont pas récupéré? Est-ce que c'est aussi pourri du côté des déchets que ça l'a été du côté de l'eau? C'est ma question, pour parler franchement.
Je ne suis pas bien placé pour dire si c'est pourri ou pas, mais ce qui est certain, c'est que Paris... Alors là aussi, il y a deux logiques. Il y a la logique collecte et la logique traitement. Paris a la particularité d'avoir une partie de sa collecte, plus de 60% qui est gérée en régie, c'est-à-dire par des agents de la ville de Paris, donc on a un rapport en gros 40-60, 40 pour le privé et 60 pour le public. Il y a 5 ans, c'était l'inverse, donc il y a eu une logique de remunicipalisation, du 3e arrondissement, du 19e, du 2e arrondissement. Le 2e arrondissement, il est allé plus loin encore. Voilà. Donc ça dépend des arrondissements, le 19e, il est resté public. Donc il y a des va-et-vient, et c'est une logique quand même qui est inversée par rapport à une logique de privatisation progressive qui a été lancée par Jacques Chirac dans les années 80, voilà, pour la collecte des déchets. Ensuite, pour le traitement, on a des outils qui sont des outils publics, mais qui sont gérés par les entreprises privées. Et donc, on est un peu dans une situation intermédiaire. C'est quand même bon. Alors qu'ailleurs, à l'extérieur de Paris, en Ile-de-France comme en France, on a des outils qui sont souvent entièrement gérés par le privé et qui ont ce qu'on appelle des délégations de services publics. C'est-à-dire que non seulement elles ont les déchets municipaux, mais en plus, elles vendent elles louent leurs installations pour d'autres déchets. Et donc, il y a des fois des mélanges de genres qui sont compliqués à gérer. Et c'est là qu'il y a des marges. Quoi. Voilà.
Mais on parle là du public et du privé, mais il y a un tiers secteur aussi qui s'occupe des déchets. Il y a aussi un certain nombre d'initiatives de l'économie sociale et solidaire. Alors peut-être, enfin certainement à une plus petite échelle, et plutôt dans le réemploi ou dans le recyclage. Mais il y a un certain nombre d'associations qui agissent. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu?
Voilà, alors... C'est très difficile parce qu'on les a tués, toutes ces associations, tout ce secteur informel, il y a un siècle, on les a tués avec notre poubelle, notre mélange, notre système très efficace mais très univoque. Et aujourd'hui, on essaie de le recréer. Et on essaie de le recréer avec les gros bras des collectivités qui essaient de créer l'informel. C'est un peu antinomique. La collectivité, l'État, les communes, elles ont des outils qui sont lourds, qui sont compliqués, qui sont très normés. Et alors que pour que le secteur informel se développe, il faut au contraire de la légèreté, de l'adaptabilité, etc. Mais c'est clairement l'objectif premier de tout ce monde des déchets, au moins depuis 5-6 ans. C'est théoriquement depuis les années 1970, là, depuis les nouvelles réglementations sur les déchets, mais depuis 5-6 ans, il y a une vraie volonté qui rentre dans le concret. Il y a aussi une maturité de l'économie sociale et solidaire qui n'y avait pas avant. Mais ça reste lourd, ça reste aujourd'hui embryonnaire. Donc moi, je suis un garçon optimiste, donc je vois ça comme des outils pilotes, des ressourceries, donc des endroits où on amène ces déchets qui ne sont pas seulement pour le recyclage, mais aussi pour les réutiliser. Les carrés des bifins que vous évoquiez l'autre fois, qui sont des aides comme ça institutionnelles à des démarches informelles. Il y a toutes sortes de démarches comme ça qui se développent sur Internet, des démarches aussi complètement hors champ marchand, d'échanges, de troc, de
Par exemple, il y a la réserve des arts qui récupère toutes sortes de matériaux et qui les met ensuite à disposition des artistes.
Ouais. Et, ça, et qui a ouvert sa boutique la semaine dernière. Donc, ça évolue énormément, mais pour l'instant, c'est tout petit. Dans le 20e arrondissement, à côté du métro Pyrénées.
D'accord. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a trois choses dont j'aimerais parler assez vite, si c'est possible. Et peut-être plus si Laurence et Sophie ont plus des questions. Alors, est-ce que vous pouvez répondre assez vite à ces questions, à mes trois dernières questions? Je ne comprends pas pourquoi, sur les emballages, pourquoi on n'a pas harmonisé le tri au niveau national pour que, sur les emballages, on puisse dire à tout le monde, eh ben, cette brique de jus de raisin bio, elle se met dans la poubelle verte ou dans la poubelle jaune. Alors, pourquoi il n'y a pas un système beaucoup plus simple pour orienter le consommateur à choisir? Et puis, quand on change de département, on a l'impression que ce n'est pas la même gestion, etc. Pourquoi on n'arrive pas à faire ça?
Alors, il y a un effet d'optique. C'est-à-dire qu'à peu près partout en France, on a les mêmes consignes.
D'accord.
Simplement, elles ont l'air différentes parce que le bac n'est pas toujours de la même couleur et parce que des fois, on mélange le papier.
Oui, mais ça, c'est quand même bien.
Et les autres emballages.
Les bacs sont pas de la même couleur. Quand on y pense, pourquoi les bacs ne sont pas de la même couleur?
Alors,
moi, quand je vais en vacances tous les étés dans l'Isère, je dois faire un exercice mental qui me prend plusieurs jours pour comprendre que là-bas, j'ai trois poubelles, à Paris, j'en ai que deux. Et que je dois séparer les emballages du papier. Enfin, c'est pas le même système. Pourquoi c'est pas le même système?
Alors, vous avez raison et tort. C'est quand même pas très compliqué. Mais comme les déchets, c'est quand même pas quelque chose qui passionne tout le monde, et ils ont raison, ils ont d'autres préoccupations dans la vie, c'est des petits freins qui font que peut-être les performances en France, c'est peut-être une des raisons pour que les performances soient pas aussi bonnes que dans d'autres pays. Donc, il y a la première réponse, c'est qu'en France, on a un principe constitutionnel qui dit que les collectivités sont libres, qu'il y a un principe de liberté de gestion des collectivités qui fait que chaque collectivité fait comme elle veut. Mais on a quand même toutes sortes de contraintes qui auraient dû amener à un code de la route, si j'ose dire, identique partout. Ce qui n'a pas été possible parce que pour diffuser dans les années 90 la démarche de tri, l'organisme qui était chargé de mettre en place ce dispositif-là était plus dans une logique de séduction et d'adaptation à des contraintes locales, même si elles étaient artificielles, plutôt que de logique massive.
D'accord.
Et du coup, aujourd'hui, on vit avec ce passif-là. Et c'est un passif qu'on n'arrive pas à dépasser parce que le Grenelle de l'environnement prévoit justement qu'on le mette en place. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi. Enfin, ce n'est pas seulement le cas de ce sujet-là, puisque les trois quarts des projets du Grenelle, des objectifs du Grenelle ont été détournés et dans les déchets comme pour le reste. Mais il y a toutes sortes de freins, en particulier de ceux qui sont directement concernés par ça, c'est-à-dire... les emballeurs, enfin ceux qui mettent sur le marché des emballages, pour le volet mettre sur chaque emballage une consigne claire, et puis des freins du côté collectivité, parce que maintenant qu'ils ont investi dans des dizaines de milliers de bacs, changer la couleur de ces bacs ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a certains freins aussi de ce côté-là.
Donc ma deuxième question, c'était sur le problème de l'environnement, finalement, parce que comme tout le reste, c'est passé un peu à la trappe, quoi.
Alors, beaucoup de choses sont passées à la trappe, mais c'est comme tout le reste dans le Grenelle de l'environnement, on est loin du changement d'époque qui avait été promis au départ, mais il y a quelques petites avancées.
D'accord.
Alors, est-ce que ce sont les avancées du Grenelle ou du contexte ou de la réglementation européenne? C'est difficile de faire la part des choses. En tout cas, dans les déchets, aujourd'hui, avec ou sans Grenelle, on est dans une logique de prévention des déchets qui n'existait pas avant, qui nous a été imposée par la directive européenne de novembre 2008, qui a été reprise par le Grenelle, en Ile-de-France, qui a été reprise entre-temps par les plans régionaux de gestion des déchets. Et donc, aujourd'hui, la prévention qui existait, qui était déjà un objectif avant, commence à rentrer dans l'opérationnel. Hein. On parle souvent d'une circulaire de Dominique Voynet en 1999, qui disait... il faut au moins recycler la moitié de ses déchets. Alors le Grenelle, il me dit, il faut au moins recycler 45% de ses déchets. Donc il est un petit peu en retrait. Mais il rentre dans l'opérationnel dans le sens où il met quelques dispositifs en place. Et là, le même circulaire, on le sait beaucoup moins, disait qu'il faut mettre la prévention en premier lieu. Et elle avait été complètement passée à la trappe. Et maintenant, il semble que la prévention devient un véritable objectif pour l'ensemble des collectivités. Mais est-ce que c'est à cause du Grenelle ou est-ce que c'est à cause de la directive?
D'accord.
Chacun...
Alors, mon dernier sujet, c'est sur le compost. Parce qu'on parle de compost. Alors, pour résumer rapidement, j'ai bien compris que le compost, donc c'est... la réutilisation des déchets organiques.
Non, c'est le recyclage.
Le recyclage des déchets organiques pour en faire une sorte de terre. Enfin, moi, j'en ai déjà fait dans mon jardin, à la campagne. Bon,
D'amendement organique.
Voilà.
Qui permet. C'est pas vraiment de l'engrais, mais enfin, on peut faire de l'engrais aussi un peu, mais ça permet de régénérer les sols.
Voilà, régénérer les sols. Donc, on a une espèce de tentative d'incitation du citoyen de faire du compost, parce que les sols en ont besoin. J'ai appris ça dans le livre, c'est qu'effectivement, les sols ont été. Complètement dénaturés, donc ils ont besoin de compost. Et parce qu'il y a sans doute encore trop de déchets organiques, et puis peut-être que au niveau de, je sais pas, c'est peut-être les déchets sont peut-être saturés des déchets organiques, donc c'est un moyen d'éviter la collecte, quoi. Bon, mais seulement, moi j'habite dans le cœur de Paris. Est-ce qu'il n'y a pas une naïveté quand même à nous demander de faire du compost pour planter des... Parce que la seule incitation que je vois dans le livre, c'est parce que vous, comme ça vous aurez du compost pour vos plantes vertes ou pour vos fleurs. Moi, j'ai un bac, j'ai jamais réussi à faire pousser la moindre fleur. Et puis, même si je faisais un bac de compost, je trouve ça compliqué quand même de demander ça aux Parisiens qui habitent dans des appartements à 10 000 euros le mètre carré. En plus, ça prend quand même un... Enfin, est-ce que c'est pas un peu naïf comme démarche le Parisien, je parle vraiment du Parisien centre-ville, quoi.
Alors, il faut dire deux choses. D'abord, le premier sujet sur le compost, c'est qu'aujourd'hui, les déchets organiques, donc qui pourrissent, qui permettent d'alimenter la terre, parisiens, ils finissent dans des incinérateurs. Et ces déchets, c'est de l'eau. C'est 90%, voire plus, d'eau. Donc aujourd'hui, on met de l'eau dans les incinérateurs. Donc ça n'a strictement aucun sens. Et en plus, ça les sature, les incinérateurs. On ferait mieux de brûler des trucs qui brûlent bien, du bois, des tas de choses, voilà. Donc, si on peut enlever tout ça des incinérateurs, tout le monde s'en portera mieux. Ensuite, dans la ville, et à Paris en particulièrement, on a des gros producteurs et des petits producteurs de déchets organiques. Les gros producteurs, c'est les restaurants, les cantines, les marchés, tous ces déchets, tous ces acteurs de la ville qui produisent beaucoup de déchets organiques. Ils ont encore moins de raisons de les envoyer dans les incinérateurs, autant les récupérer et en faire non pas du compostage domestique, mais du compostage industriel dans des grandes usines qui font du compost, qui font éventuellement de l'énergie avant de faire du compost en les faisant fermenter, ça s'appelle la méthanisation. Bon. Après, il reste les déchets organiques diffus, les déchets de les vôtres, les miens, etc. Alors, c'est pas si compliqué que ça.
Non, c'est pas compliqué.
Objectivement, moi je fais ça depuis 4 ans sur mon balcon dans le 19e et ça se passe très bien.
Avec
des lombriques. J'en ai installé un cette semaine dans mon bureau et voilà. Donc c'est pas compliqué. Ça réduit beaucoup les déchets parce que ça produit beaucoup plus les déchets que ça n'en produit. Mais je suis d'accord avec vous que c'est pas la priorité dans le centre de l'agglomération parisienne. Il y a quelque chose qu'on oublie toujours de dire, c'est que Paris, c'est une des villes les plus denses du monde. Les 87 km² de Paris, c'est plus de 24 000 habitants au kilomètre carré. Que pour comparer, vous avez Bombay qui a 30 000 habitants au kilomètre carré, donc pas beaucoup plus. Vous avez Calcutta qui a 26 000, je crois, habitants au kilomètre carré. Donc les deux grandes villes, au sens administratif du terme, qui dépassent Paris, c'est les deux plus grosses villes de l'Inde. Voilà. Toutes les autres villes, elles sont moins denses que Paris. En tout cas, que les 87 km² de Paris. Parce que c'est plus compliqué si on parle de l'agglomération. Voilà, c'est une image. Et donc, c'est sans doute pas la priorité de dire aux gens de composter dans Paris. Surtout que dans Paris, vous avez quand même 300 000 tonnes de papier et de carton qui sont aussi envoyées dans les incinérateurs et qui sont hyper recyclables. Donc la priorité, à mon avis personnel, elle est dans les 300 000 tonnes de papier et de carton, et pas dans les organiques. Sauf qu'aujourd'hui, on est on est en train de changer de culture. Et moi, il y a 10 ans, 20 ans, dans les années 90, je traversais Paris à vélo, au début des années 90, et je ne voyais pas un seul vélo. Et quand je disais un jour à Paris, on circulera beaucoup à vélo, on me riait au nez. Voilà. Et aujourd'hui, on a le Vélib, on a des milliers de gens qui circulent à vélo, et c'est devenu un moyen de transport normal. Et aujourd'hui, on est un peu dans la même situation avec le compost individuel. C'est-à-dire que il y a une volonté, il y a une démarche. Quand la ville de Paris lance des appels à projets pour le compostage en ville, eh ben, il est dépassé par la demande. Donc il se passe quelque chose autour de ça. Et peut-être que dans 10 ans, on aura des milliers de gens qui feront du compost. Ça ne sera qu'un tout petit morceau des déchets. Comme aujourd'hui, le vélo, c'est 2-3% des circulations. Mais ça sera essentiel pour le changement culturel de la ville.
Ah ben là, moi, je trouve ça génial pour terminer cette émission, pour terminer ce débat. Merci. On va faire un petit tour par le potager des oiseaux. Puisque c'est une interview que j'ai menée la semaine dernière, une promenade dans le potager des oiseaux qui était un jardin partagé au cœur du 3e arrondissement, derrière le marché des enfants rouges, où j'ai été accueilli chaleureusement par Claire et par Françoise. Donc c'est l'interview du piéton et on se retrouve juste après.
Les interviews du piéton.
Bon, alors nous sommes dans un petit carré de verdure au milieu du 3e arrondissement à Paris. Un petit carré de verdure qui s'appelle le potager des oiseaux. Alors Claire, vous nous expliquez ce que c'est que ce potager des oiseaux. Est-ce qu'il y a des oiseaux déjà ici?
Il y en a qui sont revenus parce que on leur a mis des petites maisonnettes.
D'accord.
Et on leur a mis de quoi manger. Et vous voyez que la boule qui était grosse comme ça,
elle s'est vidée un petit peu.
Voilà, et c'est un festin sûrement pour eux.
D'accord.
Et suffisamment.
C'est quoi? C'est des petits moineaux? C'est oiseaux.
Alors oui, il y a des moineaux. Il y a Françoise, t'as vu autre chose que des moineaux?
Ben non, en fait, malheureusement, il n'y a pas de grande variété d'oiseaux qui viennent ici.
Alors quelquefois, il y a des pigeons. Le potager des oiseaux, en fait, ça s'est toujours appelé comme ça.
Parce que, c'est moins poétique du coup. Mais c'est parce que cette rue s'appelle la rue des oiseaux.
Ah d'accord, ok.
Voilà.
Bah, c'est une chance qu'elle ne s'appelle pas notre nom en même temps.
Mais enfin, il y a tout de même des...
Alors c'est un espace qui fait quoi, 100 mètres carrés ?
125
mètres carrés. Et donc c'est des petits îlots de terre comme ça, qui sont gérés par des gens du quartier, c'est ça ?
Voilà, ce sont des parcelles.
Des parcelles.
Qui sont gérées collectivement.
Tout est collectif.
Les plantations, les achats, les plantations, la récolte et puis les dégustations sont aussi collectives.
D'accord. Et ça pousse bien ici en plein cœur de Paris?
Ah ben oui, ça pousse très bien. On a énormément de variétés et de fruits.
Ouais.
Et de légumes, on a des framboises, on a des pommes, des pêches, des poires, des cerises, des groseilles, du cassis, voilà.
Oui, qu'on voit toutes sortes de, même voilà, des épices.
Il y a des choses qui ne poussent pas, on n'a jamais réussi à faire pousser ni un poireau ni une carotte.
Ah, c'est vrai?
C'est probablement la composition de la terre. Et peut-être la profondeur aussi. Mais on a fait pousser des asperges, par exemple, sans aucune difficulté. Donc, et là, on a, comme vous voyez, de la frisée, on a la salade d'hiver, donc la mâche, là-bas. On a de la romaine, là.
Bon, il n'est pas dans son meilleur état, le jardin, puisqu'on est en plein hiver.
Oui.
C'est la phase.
Mais je trouve que quand même, après une vague de froid et de neige, il est quand même... plutôt impressionnant. Bon, je suis surpris que ça résiste aussi bien. Qu'est-ce que vous avez fait quand il a neigé là?
Ah bah c'est sous la neige.
On fait rien. C'est vrai, il n'y a rien à faire.
On fait rien.
Je sais pas, mettre de la paille. Ou...
Ben on a paillé. On a paillé les fraisiers.
Il faut pailler certaines choses alors.
On a paillé le jasmin.
D'accord.
Voilà, on a cherché de la paille à Paris. On a été voir la garde républicaine qui nous a donné un ballot de paille. Oui.
Pour conclure, c'est un lieu où on peut venir se promener, rencontrer les gens de l'association le week-end, en fait, c'est ça, je vois de.
Mais quand dès qu'il y a un jardinier dans le jardin, puisque les jardiniers ont la clé du jardin, il doit laisser la porte ouverte.
D'accord.
N'importe qui peut venir jardiner quand il veut. Et sinon, on est tenu à faire des permanences. Et donc, nous, on a choisi le week-end parce que...
Le samedi et le dimanche, de 11h à 13h.
Voilà,
de 11h à 13h. Derrière le marché des enfants rouges.
Voilà.
Mais à partir du moment où, par exemple, nous sommes là, le public peut rentrer.
Bien sûr, d'accord.
Quand c'est ouvert à tout le monde.
Bon, bah écoutez, merci de votre accueil dans ce lieu charmant. Bonne saison, bonne récolte.
Oh, bah sûrement, il va falloir planter d'abord. Hein.
Ouais.
Voilà, on a écouté un extrait, mais vous pouvez retrouver l'intégralité de cette promenade sur notre site www.zoom-ecologie.net. Il est temps de conclure cette émission. Je rappelle qu'elle sera rediffusée demain vendredi de 11h à 12h, que vous pouvez la réécouter également sur le web www.zoom-ecologie.net, où nous avons récemment d'ailleurs posté toutes les anciennes émissions. Je vous invite également à consulter le site de l'ORDIF, ordif.com. Vous pouvez nous adresser un message par mail zoomecolo3@gmail.com. On se retrouve le troisième jeudi du mois de
mars.
Merci. Je ne pourrais pas vous dire la date. Merci infiniment à nos invités, donc Eder de Oliveira,
merci à vous.
Et Darton, notre invité musical. C'était Alexandre Ribault, Laurent Sug et Sophie Roux. Zoom Écologie, troisième jeudi. On termine en musique en écoutant un artiste assez... qui s'appelle Martin May, qui est un artiste d'Aix-en-Provence, que j'ai rencontré sur un concert ce week-end, et qui est un garçon très sympathique et très humble, et qui fait une musique dans un univers tout à fait envoûtant, un peu électro, très bien en plus, avec un mélange de sons. Ça me fait penser un peu à J.J. Johnson ou à Aaron plus récemment. Il sera à Paris le 9 avril à l'Espace B. Voilà, je vous laisse et on se retrouve au mois de mars.
No swear, no shield. While he runs round and round, the stream is gay. Flies over the ground with no aim. Alone with nature alone. Alone.